Écrit par Gustave le Nôtre, Le vrai chevalier de Maison Rouge, épilogue. Dans une série de volumes intitulée Le drame de 93, où l'histoire est traitée avec un sans-façon qui ôte au livre tout intérêt, Alexandre Dumas, après avoir rappelé en quelques lignes l'incident de l'œillet, compte un souvenir personnel. Ceux qui ont lu, dit-il, mon roman du chevalier de Maison Rouge, ceux qui ont vu ma pièce des Girondins, comprendront sans doute que l'intrigue en est empruntée aux faits que nous venons de raconter. Mais ce qu'ils ne peuvent savoir, c'est la douloureuse anecdote que je demande à mes lecteurs la permission de consigner ici. Le roman du chevalier de Maison Rouge portait d'abord, et tout naturellement, le titre de Chevalier de Rougeville. Sous ce titre, il était annoncé à la démocratie pacifique qui devait le publier lorsqu'un matin je reçus une lettre conçue en ces termes. « Monsieur, mon père a marqué dans la Révolution française d'une façon si rapide et en même temps si mystérieuse que je ne vois pas, je vous l'avoue, sans inquiétude, connaissant vos principes républicains, son nom en tête d'un roman en 4 volumes. De quel incident avez-vous pu accompagner le fait qui se rattache à son nom? Voilà ce que je vous demanderai avec quelque inquiétude, quoique je connaisse, monsieur, tout le respect que vous professez pour les grandes choses tombées, toutes les sympathies que vous avez pour les nobles dévouements. Veuillez, monsieur, me rassurer par quelques mots. J'attends une réponse à ma lettre avec impatience. Agréez, monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués. Signé, Marquis de Rougeville. » On comprend que je m'empressais de répondre. Voici ma lettre. « Monsieur, j'ignorais qu'il existât encore, de par notre France, un homme qui eut l'honneur de s'appeler le marquis de Rougeville. Cet homme, vous m'apprenez son existence et les obligations qu'elle m'impose. Quoique mon roman, monsieur, soit tout à l'honneur de monsieur votre père, à partir de ce moment, il a cessé de s'appeler le chevalier de Rougeville pour s'appeler le chevalier de Maison Rouge. Veuillez recevoir, monsieur, l'hommage de mes sentiments les plus distingués. » Un mois à peine s'était écoulé lorsque je reçus cette seconde lettre. « Monsieur, appelez votre roman comme vous voudrez. Je suis le dernier de la famille et je me brûle la cervelle dans 1 heure. » Signé de Rougeville, Petite rue Madame au numéro 3. J'ouvris le tiroir de mon bureau. J'y cherchais la première lettre. Je comparais l'écriture de l'une avec l'écriture de l'autre. C'était bien la même. L'écriture était nette, correcte, et l'on y eut vainement cherché la trace de la moindre émotion. J'eus quelque peine à croire à la réalité d'une pareille décision. J'appelai un de mes secrétaires et je l'envoyai prendre à l'instant même, à l'adresse indiquée dans la lettre, des nouvelles de monsieur de Rougeville. Il venait effectivement de se tirer un coup de pistolet dans la tête, mais il n'était pas mort, et sans répondre de sa vie, les médecins espéraient le sauver. « Vous irez tous les jours prendre des nouvelles de monsieur de Rougeville, dis-je à mon secrétaire, et vous me tiendrez au courant de sa santé. » Pendant 2 jours, il y eut une amélioration progressive. Le 3e jour, il revint et m'annonça que monsieur de Rougeville, pendant la nuit précédente, avait arraché l'appareil de sa blessure et le matin était mort du tétanos. Cette dramatique anecdote ne nous inspirait, faut-il l'avouer, aucune confiance. Outre que la prétendue lettre du marquis portait la marque de Dumas lui-même, outre que cette phrase, surtout, tout le respect que vous portez pour les grandes choses tombées, toutes les sympathies que vous avez pour les nobles dévouements, nous paraissaient évidemment écrites dans le style particulier de l'auteur des Trois Mousquetaires. Une chose nous semblait difficile à admettre. Comment, à l'époque même où le romancier s'occupe à tracer le récit des aventures de Rougeville, le hasard lui fournit l'aubaine inespérée d'être mis en relation avec le fils du conspirateur. Et bien que les renseignements précis lui fassent absolument défaut, il ne met pas à profit cette bonne fortune pour se procurer les documents qui lui manquent. Il n'avait même pas l'excuse de dire, comme je ne sais plus quel historien qui doit à ce mot le plus clair de sa renommée, « Bah, tant pis, mon siège est fait. » Car il ne composait ses romans qu'au jour le jour, et il est probable qu'au moment où son œuvre était annoncée, la première ligne n'en était pas écrite. Il y avait là un si invraisemblable manque de tout scrupule historique que nous ne pouvions admettre l'authenticité de la correspondance qu'on vient de lire. Cependant, en étudiant à notre tour l'existence mouvementée de Rougeville, nous estimâmes qu'il était bon, par pur acquis de conscience, de réduire à néant ce racontard et d'appuyer d'une pièce authentique une réfutation que nous espérions facile. Si un Rougeville était mort vers 1845, date de la publication du feuilleton du Chevalier de Maison Rouge, il devait se trouver trace de son décès dans les registres de la municipalité. Mais l'état civil, détruit en 1871, n'a été reconstitué qu'incomplètement et de ce côté, nos recherches furent vaines. Restaient les archives de la paroisse Saint-Sulpice sur le territoire de laquelle se trouvait la petite rue Madame. Il pouvait se faire, il est vrai, que le corps d'un suicidé n'ait pas été présenté à l'église, et l'absence du nom de Rougeville sur les registres de la paroisse n'eût donc pas été une preuve convaincante. À tout hasard, cependant, nous nous adressâmes à Saint-Sulpice, et notre étonnement fut grand lorsqu'après quelques jours de recherche, on nous remit l'extrait suivant. Église paroissiale Saint-Sulpice. L'an 1845, le 18 mars, a été présenté à cette église le corps de Monsieur Charles-Alexandre, marquis de Rougeville, âgé de 34 ans, décédé le 16 courant, carrefour de l'Observatoire, époux de Dame Victorine de Frazan. Ceci nous fit considérer avec plus de respect l'anecdote contée par Dumas. Cet indice était pour elle un commencement d'authenticité et afin de compléter notre requête, nous nous mîmes à feuilleter patiemment la collection de la démocratie pacifique. Nous acquîmes ainsi la certitude que l'histoire de la fin sensationnelle du fils de Rougeville est de tout point conforme à la vérité. À la date du 26 janvier 1845, le journal annonçait en effet la prochaine publication en feuilleton d'une œuvre de M. Alexandre Dumas, Geneviève, épisode de 93. L'annonce se répète plusieurs fois dans les mêmes termes. Le 23 février, le titre change et le futur feuilleton s'appelle « Le Chevalier de Rougeville, épisode de 93 ». Deux jours après, nouveau changement, le titre est supprimé et l'on imprime seulement que la démocratie pacifique publiera un roman en deux volumes de M. Alexandre Dumas. Le 1er mars paraît la note que voici. Nous avons déjà à notre disposition les deux tiers du roman de M. Alexandre Dumas qui ne fera pas moins de trois volumes et qui aura pour titre Le Chevalier de Maison Rouge. Ces modifications successives nous permettent donc de reconstituer les faits. C'est le 24 février que Dumas reçut la lettre du marquis de Rougeville. Hélas, elle n'eut pas pour effet de l'inciter à interroger ce témoin vivant qui eût pu lui fournir de si précieux renseignements. Sa verve en fut cependant fouettée. « J'ai promis 2 volumes sur Rougeville, se dit-il. Puisque son fils vit encore, j'en ferai 3. » Et cet étonnement indique bien que son roman n'était pas alors bâti. Si la démocratie affirme qu'elle en possède déjà les 2/3, c'est à seule fin d'allécher et de rassurer les lecteurs qui parfois avaient attendu pendant des années le dénouement d'une histoire que le capricieux conteur n'avait plus le courage de terminer. En continuant à feuilleter la collection de La démocratie pacifique, nous rencontrâmes le fait divers suivant, à la date du 26 mars. La publication du Chevalier de Maison Rouge n'était pas encore commencée. Monsieur de Rougeville, appartenant à une des plus anciennes familles de France, vient de mourir de la manière la plus déplorable. Épris d'une jeune femme, il voulait l'emmener en Italie. Elle s'y refusa obstinément. Monsieur de Rougeville, dans un accès de délire, prit un pistolet chargé jusqu'à la gueule et se le déchargea au milieu du front. L'os frontal fut brisé, mais la balle dévia et la masse cérébrale resta à peu près intacte. Les médecins promettaient la prompte guérison de ce jeune homme. Mais il y a 2 jours, trompant la surveillance de ses gardiens, Monsieur de Rougeville a brisé l'appareil qu'on lui avait posé et a mis les lobes cérébraux à nu. Il a expiré instantanément. Il laisse pour légataire universel Monsieur J. Sandeau et un autre écrivain. Le père de Monsieur de Rougeville, qui avait conçu un plan pour sauver Marie-Antoinette de la prison du Temple, avait été fusillé à Reims dans les 100 jours. Et le 31 mars, une courte note complétait ces renseignements. Nous avons dit que M. de Rougeville, qui est mort si malheureusement à la suite d'un désespoir d'amour, avait laissé pour héritier M. Jules Sandeau et un autre écrivain. Le nom de ce dernier est révélé par l'écho du nord de l'île. C'est M. Auguste Bussière, un des rédacteurs de la Revue de Paris et de la Revue des Deux Mondes. Ajoutons que la tradition locale à Reims, où le souvenir de Rougeville resta longtemps vivant, gardait de la mort de son fils une version un peu différente. M. Louis Tavernier l'a recueilli dans son intéressant article publié en 1869 par l'indépendant Rémois. Quoique père et mari d'une femme charmante, dit-il, le fils de Rougeville s'était épris d'une dame russe à laquelle il avait demandé un dernier rendez-vous. À peine eut-elle refusé la porte de sa chambre que, surexcité par sa situation morale, il se tua d'un coup de revolver en disant « C'est pour vous que je meurs. » Quoique père, est-il écrit, Rougeville pourrait donc, à l'heure actuelle, avoir encore des descendants directs. La chose est d'autant plus vraisemblable qu'outre ce fils, dont nous venons de conter la triste fin et qui était né le 21 janvier 1809, il en avait un autre, Louis-Alexandre, né le 3 septembre 1807. Que sont devenus leurs enfants? Peut-être nous serait-il possible de le dire, mais l'histoire doit s'arrêter là où commence l'indiscrétion des révélations inutiles. Il est temps d'ailleurs de terminer ce livre où nous avons tenté de dire la vérité sans être certains d'y avoir toujours réussi. Nous ajouterons cependant au sujet des 2 dates que nous venons d'écrire une réflexion que beaucoup sans doute trouveront enfantine. Le 21 janvier, c'était l'anniversaire de la mort du roi. Le 3 septembre, celui de la découverte du complot de l'œillet. Les fils de Rougeville, en naissant, rappelaient à leur père les 2 époques fatidiques de son existence. Tout est étrange dans sa vie, tout. On le voit, jusqu'au hasard même, tout y est bizarrerie, incohérence ou mystère. Puisse cette considération nous servir d'excuse auprès de ceux qui nous reprocheront de n'avoir dessiné de notre héros qu'une silhouette indécise et confuse. En essayant d'analyser son caractère, nous ne sommes parvenus, peut-être, qu'à agrandir une énigme dont nous n'avons pas su trouver la solution.